Maxime Maury, Economica.
Jacques Lavergne, bonjour. Bonjour.
Dire la vérité sur l'économie.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Nous nous retrouvons avec Maxime Maury et Jacques Lavergne, bien sûr, pour notre traditionnelle émission économique. Et comme vous l'entendrez certainement, nous ne sommes pas, comme l'on dit maintenant avec ce très vilain mot, parce qu'il est très laid, on n'est pas en présentiel, nous utilisons les méthodes modernes, ce qui permet de nous retrouver, de faire une triangulaire entre Toulouse, où nous serons relayés, Albi, et puis les Causses du Lot, où je me trouve. Alors aujourd'hui, on va commencer par une citation, tiens, vous savez qu'on en est friands, alors voilà la mienne, « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». C'est une dédicace que je fais à un homme politique bien connu, mais je ne citerai pas son nom pour préserver.
Elle est de qui ? Elle est de qui ?
Elle est de Winston Churchill.
Ah, alors moi aussi, j'ai choisi pour illustrer le Brexit, Jacques, une citation anglaise. C'est une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot et qui ne signifie rien. William Shakespeare.
Voilà, j'allais dire, c'est un homme de théâtre anglais, effectivement. Donc, nous sommes très anglais aujourd'hui pour nos amis anglais et leur départ. Alors, justement, vous l'avez compris, nous aurons essentiellement deux thèmes, le Brexit et puis ses conséquences économiques, que l'on ne mesure peut-être pas, certainement pas d'ailleurs, encore pleinement. Et puis, nous allons parler de la dette, un peu une édition spéciale sur la dette, comment et dans quel état va-t-on sortir de la dette du Covid, à quelle époque, éventuellement un horizon 2023, mais tout cela, Maxime va nous le préciser tout à l'heure. Alors, quelques brèves pour nous mettre en bouche, si je puis dire, que j'ai piquées comme cela dans la lecture du Canard enchaîné. La première, ce sont le vote du projet de budget pour 2021, un budget qui va voir le déficit atteindre 8,5% du PIB et une dette à 122,4%, donc on est très très loin des déficits, 3% de déficit et des 60% de dette autorisée par le traité de Maastricht. Et puis, comparaison n'est pas raison, mais tout de même, on est très loin des 60% de la dette allemande. Autre brève, de M. Bayrou, la part de l'industrie dans le PIB de la France est 13%, en Allemagne c'est 25%, en Italie 19%. Donc, je pense que vous confirmez, Maxime.
Oui. La désindustrialisation de la France, on pourrait le voir aussi au travers du commerce extérieur, depuis 20 ans, a été considérable.
Et peut-être qu'un jour, il faudra quand même qu'on revienne là-dessus pour en comprendre éventuellement le moteur, qu'est-ce qui nous a amené là et qu'est-ce que cela implique aujourd'hui pour notre avenir. Peter Altmaier, vous le connaissez, Altmaier qui est le ministre allemand de l'économie, et qu'a-t-il dit? Il a dit, alors il faut le citer parce que c'est rare qu'on ait des satisfaits qui viennent de ce côté-là du Rhin, cette fois la France a tout fait correctement et a obtenu des succès impressionnants. Donc c'est un bel hommage qui est fait finalement à notre gouvernement. Et puis, qu'est-ce que… Oui, par exemple, M. Mélenchon, là, qui a parlé de la dette…
À quel sujet dit-il ça, finalement? Je crois que j'ai lu ça, mais je ne me souviens plus. À quel sujet?
Altmaier, sur la gestion de la crise telle que nous l'avons organisée. Bon, c'est un peu surprenant parce qu'ils ne se sont quand même pas mal débrouillés, les Allemands. À ceci près que sur la deuxième vague, Merci, Madame Merkel, n'a pas véritablement été écoutée par les lenders et que les lenders ont un peu appliqué leur politique. Ça n'a pas été forcément très réussi, cette décentralisation. Et une observation de M. Mélenchon, qui était convié, alors lui, il n'a pas chopé le Covid en y allant, qui était convié à l'Élysée le 15 décembre avec les présidents de groupes parlementaires et qui a dit, pendant le repas, il faut annuler la dette Covid.
Ça ne veut absolument rien dire et on en parlera dans un moment.
Voilà, et M. Macron lui a rétorqué, que pour annuler la dette, ce serait aussi annuler les traités européens, donc sortir de l'Europe.
Oui, bien sûr.
Il a rajouté, mais c'est surtout envoyer un message au marché financier qui pourrait nous coûter 3 points de taux d'intérêt, 2 points de croissance.
Bon, ce qui prouve, par parenthèse, et Mélenchon n'est pas le seul, que beaucoup de gens parlent sans savoir même ce dont ils parlent.
Oui, alors,
ça, il y reviendra.
C'est quand même une tendance de notre époque, puisque tout le monde, surtout, tout le monde a des avis. Je crois qu'il y avait une phrase de Coluche là-dessus, mais on ne va pas faire intervenir Coluche dans notre émission, ce n'est pas notre propos. Alors, premier thème sur le Brexit, qui nous agite quand même depuis 4 ans et demi. Donc, nous avons rompu un mariage de 47 ans, qui était plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Cette rupture a mis, enfin, la forme qu'a pris cette rupture a mis en lumière la puissance quand même que peut avoir l'unité des 27, des 27 pays. Londres sortira de l'Union européenne, elle a négocié âprement, mais il y a eu une unité qui a permis de faire que la voix de l'Europe, les prétentions de l'Europe ont été entendues. On a évité le New Deal, et je pense que là, il faut en remercier quelqu'un qui a été l'artisan de cette négociation et qui a fait qu'elle se soit terminée à peu près heureusement, c'est M. Michel Barnier.
Hein. On peut illustrer ce que vous dites, Jacques, d'un mot, en rapportant un événement prouvé, c'est qu'à plusieurs reprises, Johnson a essayé d'avoir Macron au téléphone, ainsi que Mme Merkel, et chaque fois, on lui a répondu « Voyez, M. Barnier ». Donc, je trouve que c'est remarquable, cette unité, oui, vous avez raison de le souligner.
Et c'est remarquable, mais comme l'a dit M. Barnier, effectivement, il a, entre guillemets, réussi. Mais réussi, ça veut dire quoi? Il a quand même parlé, non pas de gagnant-gagnant, mais de perdant-perdant pour cette opération. Oui. Puisque n'oublions pas quand même que nous perdons, en nous détachant de l'Angleterre, ou plutôt l'Angleterre se détachant de nous, nous perdons 15% de la richesse européenne et nous perdons 13% de la population de l'Union. Donc il a quand même fallu 9 mois de tortueuses négociations pour parvenir à trouver des règles minimales aptes à assurer la fluidité des échanges, puisque maintenant nos rapports avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni plus exactement, ne porteront que sur des échanges commerciaux, tout le reste est totalement abandonné. Alors 9 mois, ça peut paraître très long, mais c'est des traités extrêmement complexes qui souvent mettent plusieurs années pour se négocier. C'est là aussi une réussite dont Monsieur Barnier peut quand même sur ce point-là être fier. Alors il est encore un peu tôt pour prévoir toutes les conséquences économiques, sociales, politiques, humaines du Brexit, bien sûr, puisqu'en dehors de l'accord cadre que nous évoquons ici ce matin avec Maxime, il y a des dizaines d'accords particuliers à écrire ou à affiner, et puis après il va falloir les appliquer. Et la question vient de suite, quand on parle d'application, de se dire que se passera-t-il s'il y a désaccord, s'il y a viol de certaines dispositions, qui en jugera, qui tranchera, combien de temps faudra-t-il pour régler un différend? Pour l'instant, on ne le sait pas, parce que régler un différend qui oppose deux États, c'est peut-être pas très problématique. Régler un différend qui oppose des entreprises qui, elles, ont besoin de réactivité, là, ça va être tout à fait autre chose. Donc, autre conséquence, on sait maintenant que même si ça peut être compliqué, on peut sortir de l'Union européenne. Ça peut éventuellement donner des idées à certains. Et toutefois, malgré ce que les politiques britanniques ont, entre guillemets, vendu à leurs électeurs, le chemin à venir ne sera pas pavé de pétales de rose pour l'Angleterre. La campagne du Brexit s'est faite à grand renfort de mensonges. On l'a suivi, Maxime, on l'a souvent dit, sur la situation réelle de la Grande-Bretagne dans l'Europe. On a menti aux électeurs et surtout sur la situation qui sera celle du Royaume-Uni après la sortie. Beaucoup de politiques britanniques ont certainement la joué à l'apprenti sorcier, en actionnant malheureusement la corde populiste, ce populisme qui est aujourd'hui, nous le savons, le cancer de nos démocraties. Alors j'ai retenu ce qu'a dit M. Peter Kellner, qui est l'ancien patron de l'Institut de sondage anglais YouGov. Il a dit « Nous entrons dans ce bref et trompeur intervalle qui sépare le moment où l'on se jette de la falaise de celui où l'on s'écrase sur les rochers en contrebas. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est parlant. « Au moment du crash, la douleur mettra à nu les mensonges qu'on nous a faits depuis le référendum sur le Brexit. » et mettra en lumière les choix que nous avons esquissés depuis 75 ans. Autrement dit, nos amis anglais ont peut-être un peu de soucis à se faire quant à leur avenir et quant à leur positionnement dans le monde. Ce d'autant plus que M. Johnson, je pense, comptait beaucoup sur l'appui de M. Trump. Aujourd'hui, l'appui de M. Trump, il ne l'aura plus et le nouveau président des États-Unis sera certainement moins enclin à suivre les errements de M. Johnson. Alors, il va y avoir des conséquences économiques qui affecteront bien sûr le Royaume-Uni et les pays européens et qui se chiffreront, peut-être que Maxime pourra nous le préciser plus techniquement là-dessus, qui se chiffreront en perte de PIB. C'est quand même quelques pourcentages de part et d'autre du Chanel de PIB qui vont être perdus dans cette affaire.
L'essentiel, c'est que la Grande-Bretagne reste dans le marché unique.
Oui.
Elle reste dans le marché unique, et donc l'essentiel est sauvé à la fois pour elle et pour nous. D'ailleurs, l'enjeu était plus important pour elle que pour nous, parce que c'est asymétrique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'accord dont un enjeu important était de prévoir, en cas de dumping fiscal, social ou environnemental, des mesures de rétorsion, cet accord est finalisé et vous avez parlé des arbitrages qui pourraient avoir lieu s'il y avait effectivement du dumping, il devrait être relativement automatique. Ce qui veut dire que sur le plan économique, l'impact est très faible et on ne peut que s'en réjouir. Avec quand même une petite nuance, c'est que je ne suis pas certain que les embouteillages à Douvres et à Calais vont se dissiper rapidement parce que la Grande-Bretagne devenant un pays tiers, il y aura quand même des déclarations assez longues à faire en douane, même si c'est zéro quota, zéro droit de douane, mais il y aura des déclarations pour vérifier le respect des normes techniques.
Oui, tout à fait.
L'essentiel est sauvé. Mais là, c'est une discussion politique sur le populisme. Pourquoi avoir passé 4 ans à en arriver là alors que l'accord négocié par Mme May, qu'on a appelé backstop, c'est-à-dire filet de sécurité, était quasiment équivalent à celui-là. Alors, signalons quand même 2 points économiques. Donc, la réponse à votre question, Jacques, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de récession économique supplémentaire de part et d'autre liée au Brexit, a priori. C'est-à-dire que les chiffres de récession pour la Grande-Bretagne donnés par le FMI il y a déjà quelques mois, c'était moins 11%. Et on disait, s'il n'y a pas d'accord, no deal, il faudra ajouter 2 à 4 points de récession supplémentaire. Cette menace est écartée. Alors, il y a quand même 2 nuances à ce que je viens de dire. Bon, la première, c'est qu'il y aura quand même un manque de fluidité économique aux frontières, d'où l'encombrement, à mon avis, durable de Douvres et de Calais. La deuxième nuance, c'est qu'il y a, mais on ne va pas s'y attarder, il y a un point qui n'a pas été traité, c'est la City, ce qui veut dire que la City de Londres, c'est-à-dire la finance londonienne, perd son passeport européen. Bon, je ne vais pas me lamenter sur leur sort, mais ce point n'a pas été négocié. Et puis, il y a un troisième point qui est la pêche, où un accord a été arraché in extremis, mais c'est un accord à 5-6 ans, 5 ans et demi exactement d'ailleurs, et vous avez noté que les pêcheurs français devront ristourner 25% de leur prise, ce qui veut dire que l'accord entraîne quand même une perte pour ce secteur de l'économie française.
Oui, les pêcheurs anglais étaient d'ailleurs beaucoup plus ambitieux au départ. C'est ce qui a fait traîner les négociations en longueur. C'est très curieux parce que les prises dans les eaux britanniques, c'est environ 650 millions d'euros. On avait un enjeu de 700 milliards d'euros d'échanges de biens et services entre l'Europe et le Royaume-Uni. Alors effectivement, les dispositions sont celles que vous avez indiquées. Retour des douanes, mais pas de droits de douane. Par contre, il va falloir…
Ni de quotas.
Voilà, plus de quotas. Il va falloir déclarer les marchandises en douane, Donc, il va y avoir des frictions, il va y avoir des coûts, il va y avoir. Moi, j'ai lu, mais sous votre contrôle, Maxime, que les économistes, certes, alors on parle toujours de la communauté des économistes, on ne sait pas trop qu'il y a là-dedans, table sur une perte de 4 points pour le PIB pour le Royaume-Uni sur le long terme à la suite de l'accord. Alors, le long terme, il le fixe à
Oui, alors, bon, en tout cas, l'essentiel est sauvé et moi, je vais me risquer à une conclusion personnelle qui va peut-être vous étonner. D'ailleurs, je pense que dans les années qui viennent, la Grande-Bretagne va se rapprocher constamment de l'Europe. Et pour une raison simple, c'est que la mondialisation telle que nous l'avons connue est derrière nous. Elle est derrière nous parce que l'année 2021 sera l'année de la taxe carbone. Et parce qu'avant 2025, nous verrons, je le crains, un pétrole à 150 ou 200 dollars le baril, puisque la production mondiale de pétrole est en régression régulière. Ce qui veut dire que le rêve un peu fantasmatique de M. Johnson de l'Angleterre du grand large qui repart à la conquête du monde, finalement le British Empire, ce rêve va s'effondrer. Et que le Royaume-Uni va se rendre compte qu'il est plus que jamais européen. Parce que dans le fond, depuis le début de cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes, il y a un mot-clé, c'est relocalisation, localisme, circuit court. Donc, je pense que nous sommes, c'est pour ça que j'ai cité la phrase de Shakespeare tout à l'heure, nous sommes dans une histoire de fous. Et encore une fois, je pense que la Grande-Bretagne se rapproche, continuera de se rapprocher de l'Europe dans les années qui viennent. Et
Alors, je ne suis pas
d'ailleurs,
étonné par votre
l'accord qui a défié finalement les pronostics, moi j'étais persuadé qu'il y aurait un accord, hein, mais cet accord montre que finalement la Grande-Bretagne est proche de l'Europe.
Je suis pas étonné par votre position parce que je la partage totalement, cette analyse. Ça me semble assez évident. Alors, juste rappelons que, donc, on l'a dit, ni droit de douane, ni quota.
Oui.
Encadrement des règles de concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, on s'est accordé pour maintenir des normes élevées dans les domaines de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique. On y est attaché, Maxime, des droits sociaux, de la transparence fiscale et des aides de l'État. Donc, il devrait y avoir là-dessus une certaine, entre guillemets, harmonisation. Et si il devait y avoir des divergences de normes trop importantes dans l'un ou l'autre camp, eh bien, on pourrait se retrouver avec des droits de douane en mesure de rétorsion,
Oui.
des quotas de la pêche, vous l'avez dit, important, ni la finance, vous l'avez dit, mais aussi ni aucun service ne font partie de l'accord de libre-échange
Absolument. Oui,
sur
oui,
les biens matériels, fin de la liberté de circulation, le changement est quand même là majeur. Quelque chose qui pourrait paraître, il y a eu un reportage d'ailleurs à la télévision Antenne 2 hier soir, anecdotique, c'est la fin d'Erasmus et des frais universitaires en hausse. C'est quand même extrêmement important. Et puis, vous l'avez dit, un tourisme qui sera certainement moins fluide puisqu'il n'y aura pas de visa pour les touristes, d'accord. Mais si un Britannique vient nous visiter et qui passe par le tunnel sous la Manche, ben, il faudra qu'il ait déjà un permis de conduire international puisque son permis britannique ne sera plus reconnu. C'est aussi bête que ça. Il faudra qu'il ait aussi une assurance santé en cas d'urgence puisqu'il n'aura plus la carte européenne. S'il a un animal domestique, il va falloir qu'il obtienne un certificat vétérinaire. Enfin bon, tout un ensemble de choses qui vont quand même un peu bousculer la fluidité qu'il y avait jusque-là. Alors, conséquences politiques, il y en aura peut-être au niveau du Royaume-Uni, mais c'est désormais leur problème, c'est-à-dire qu'ils pourraient aller vers l'éclatement. N'oublions pas que les Écossais et les Irlandais du Nord étaient majoritairement contre le Brexit et qu'on leur a imposé, qu'on a assisté là à une manifestation du nationalisme anglais. Je pense que ces pays sauront, le moment venu, s'en souvenir, mais maintenant c'est leur problème, ils ont fait leur choix. Un choix qui est une erreur historique, ce que pensent beaucoup d'Anglais, hein, qui est le résultat du pari hasardeux de l'ancien ministre Cameron, et puis des mensonges de démagogues ou de populistes de Boris Johnson, qui a fait croire aux Britanniques qu'ils auraient le beurre, c'est-à-dire la libre accès au marché européen et l'argent du beurre, le retour à la pleine souveraineté. Puis derrière, Madame Theresa May a aggravé la situation en optant pour un Brexit dur, alors que ce n'était pas forcément le choix qui avait été proposé aux électeurs. Bref, ne revenons pas sur l'histoire, regardons devant, soyons attentifs et nous verrons ce qu'il se passera demain.
Mais finalement, c'est une réussite qu'on doit à ce grand Français qui est Michel Barnier, parce que la conclusion pour nos auditeurs, c'est que finalement, les Brexiteurs, ils ne voulaient pas sortir du marché unique, ils voulaient retrouver la liberté de maîtrise de leurs frontières versus Schengen, et ils voulaient sortir des institutions européennes. Alors, ils sortent des institutions européennes, ils retrouvent la maîtrise de leurs frontières versus Schengen, et ils restent dans le marché unique. Donc, c'est une réussite, mais c'est une réussite qu'on aurait pu acquérir il y a déjà un an, ou même 2 ans, 3 ans, parce que finalement, on a mis beaucoup de temps pour arriver à ce résultat.
Oui, c'est une réussite, disons, technique. Maintenant, nous perdons quand même les Anglais, en ce que nos relations ne seront plus maintenant que commerciales, et c'est tout, alors que le projet européen est bien plus large que cela, et ce n'est pas un accord qui se résume au commerce.
Oui, mais vous verrez qu'ils reviendront, à mon avis, ils reviendront pour les raisons sur lesquelles nous convergeons, vous et moi, et je crois que vous avez eu raison de souligner, il faut le redire encore, qu'il y a eu une formidable unité des Européens que l'on doit à Michel Barnier et à Ursula von der Leyen, et au chef d'État, dont le président Macron, qui a toujours joué ce jeu d'unité européenne. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Bien, on a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, un excellent Français, Michel Barnier. Espérons que ses grandes capacités qui sont les siennes pourront un jour servir à la France. Je ne sais pas dans quel cadre, je ne sais pas s'il le souhaite, mais nous avons un homme de talent. Il n'y en a pas tellement, donc quand il y en a, autant le dire, on est assez critique parfois. Et là, nous serons ce matin louangeurs.
De talent et de dignité, de très grande dignité. Moi, c'est ça qui me frappe dans la personnalité de Michel Barnier. Très grande hauteur de vue, dignité.
Bon. Maxime, l'heure a sonné de notre première pause musicale qui va nous permettre de tranquillement d'arriver à ce problème crucial de la dette. La première, c'est toujours la vôtre. Donc, qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
Alors, j'ai choisi une chanson qui est la supplique pour être enterré sur la plage de Sète de Georges Brassens. Vous savez que j'aime Georges Brassens, vous savez peut-être aussi que j'aime beaucoup le littoral, mais dans le fond, cette chanson, les stoïciens, les auteurs stoïciens anciens disaient que vivre, c'est se préparer dignement à mourir. Et je crois que cette phrase est plus que jamais exacte. Et donc, avec cette chanson, Georges se prépare à mourir dignement. Voilà, donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
Eh bien, nous écoutons cette supplique pour être enterré sur la plage de Sète.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume au mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point, la rupture. Mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette. Auprès d'une sirène, une femme poisson, je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si ces vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits enfants liront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin, plantez je vous en prie une espèce de pin, pin parasol de préférence, saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
Voilà, c'était Georges Brassens, supplique pour être enterré sur la plage de Sète, le choix de mon complice Maxime Maury. Et nous revenons maintenant sur notre propos économique et surtout sur ce poids de la dette, cette évolution de la dette de 2 670 milliards. Je me perds un peu dans les zéros.
Exactement, dont 300 milliards de dettes, entre guillemets, Covid.
Voilà, donc dont on parlait tout à l'heure, puisque on disait qu'il faut annuler les dettes Covid. Alors, qu'est-ce qu'il en est en réalité de cette dette? Nous empruntons aujourd'hui énormément. Cantonnons la dette Covid, mais il reste quand même une dette colossale. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la croissance, par exemple?
Alors, essayons d'abord de bien décrire le mécanisme que j'appelle d'annulation de la dette Covid dans les faits. Dans les faits, la dette Covid est déjà cantonnée dans les comptes de la Banque de France. Parce que, alors quand je dis la Banque de France, la BCE, la Banque de France, ce sont deux équivalents dans mon idée. La BCE et la Banque de France, la Banque d'Italie et toutes les banques centrales nationales ont racheté, selon le FMI, environ les trois quarts de ce que nous appelons la dette Covid, c'est-à-dire le surcroît de dette européenne et nationale entraînée par le soutien nécessité par la crise sanitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 230 milliards de dettes Covid qui sont sagement rangés dans les comptes de la Banque de France. Et de fait, ça équivaut à une annulation parce que si demain les taux d'intérêt augmentaient, cette dette a été contractée à un taux d'intérêt moyen de moins 0,3%. Si demain les taux d'intérêt augmentaient, qu'est-ce qu'il se passerait? Bien, il se passerait que l'État verserait des intérêts à la Banque de France, mais comme la Banque de France n'est jamais qu'un démembrement de l'État, et qu'elle reverse son bénéfice, ses dividendes à l'État, ça serait totalement neutre. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes capés. Avec la dette Covid, elle n'est pas annulée, mais de fait, nous sommes capés contre toute augmentation des taux d'intérêt. Le moment venu, elle sera remplacée par une autre dette, puisque une dette en remplace une autre, c'est ce qu'on appelle rouler la dette, et que, encore une fois, le seul danger qui est une augmentation des taux d'intérêt est complètement capé par le fait que la Banque de France reverse ses dividendes à l'État et que donc si l'État lui payait plus d'intérêts, ça serait totalement neutre par le reversement des dividendes.
Ça s'appelle rouler la dette, avez-vous dit, Maxime? Ça ne s'appelle pas de la cavalerie aussi?
Non, la cavalerie, c'est autre chose. Bon, la cavalerie, ce sont des fausses opérations commerciales qui suscitent des financements non dus. Non, rouler la dette, c'est simplement que quand une dette arrive à échéance, nous la remplaçons par une autre, mais votre idée de cavalerie, je vais l'exploiter dans le sens où si les taux d'intérêt ne changent pas, c'est neutre, et aujourd'hui ils sont négatifs, c'est-à-dire qu'on nous paye pour emprunter, c'est formidable. Mais si les taux d'intérêt augmentent, alors là, oui, ça peut ressembler à de la cavalerie dans le sens où nous ne serions plus solvables. Donc, il faut distinguer la dette Covid de la dette non-Covid, et vous avez rappelé tout à l'heure que la dette non-Covid, c'est 2 400 milliards. Alors là, la BCE, la Banque de France, en ont racheté environ le tiers. Ce qui veut dire que pour ce tiers, nous sommes à nouveau capés, le même mécanisme prévalent de neutralisation des taux d'intérêt. Par contre, pour les deux tiers restants, donc les deux tiers de 2 400 milliards, eh bien là, nous sommes exposés à une augmentation des taux d'intérêt et nous sommes exposés éventuellement à une crise de la dette comme on l'a connue dans les années 2010-2011, c'est-à-dire que les investisseurs privés, qui sont pour moitié étrangers, peuvent avoir à un moment donné une crise de défiance et on peut avoir des mésaventures. Hein. Voilà en gros le schéma. Alors, Patrick Artus, que vous avez cité tout à l'heure, je crois, a raison de dire depuis le mois de mai, il le dit avec une constance permanente et qu'il honore, le sujet, ce n'est pas la dette Covid. La dette Covid, elle est neutralisée dans les comptes de la Banque de France. Le sujet, c'est l'émission monétaire qui a conduit à cette neutralisation. Parce que là...
On a fait marcher, pour employer un terme plus trivial, on a fait marcher la planche à billets. Quand on parle d'émission monétaire, c'est de ça qu'il s'agit.
Oui, on peut prendre cette image, mais vous savez qu'en fait, cette image est de moins en moins pertinente puisqu'il y a de moins en moins de billets. Mais enfin, elle est quand même valable. Ça veut dire que la BCE, la Banque de France, ont émis de la base monétaire, c'est-à-dire qu'elles ont acheté massivement des titres de dette, la dette Covid, nous l'avons dit, mais depuis 2015, elles ont acheté pour 2 500 milliards de titres de dette non Covid, auxquels s'ajoute cette année un plan de 1 800 milliards, donc ça fait au total 4 300 milliards, et ça produit des écritures créditrices des banques sur la Banque de France, sur la Banque centrale. Et ces écritures créditrices, c'est de la création de monnaie. Et cette création de monnaie, alors là, les économistes sont tétanisés. Si vous leur posez la question « qu'est-ce que ça va produire ?», c'est vraiment être impoli, parce qu'en fait, ça dérange énormément. Et Artus est le seul, d'ailleurs, à répondre, et nous pouvons répondre avec notre bon sens terrien du Lot et de l'Aveyron, c'est que cette monnaie supplémentaire se déverse sur les marchés d'actifs. Les marchés d'actifs, c'est la bourse, l'immobilier, le marché obligataire. Et nous voyons que le marché immobilier continue d'augmenter d'une manière totalement indue, et uniquement parce qu'il y a cette boursouflure monétaire. Nous voyons que le marché boursier est surréévalué. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais si vous regardez le niveau de l'indice Nasdaq aux États-Unis, par rapport aux bénéfices attendus, vous vous apercevez qu'il est à deux fois la normale de longue période, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le price-earning ratio est à 34 ou 35, alors que la moyenne historique est de 17. Donc, les bourses sont surévaluées et le marché obligataire est lui-même surévalué puisque c'est la contrepartie des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que le haut niveau des titres fait que les taux d'intérêt sont en contrepartie négatifs, mais parce qu'ils sont rachetés par la Banque centrale. Donc, tout ça se traduit par des inégalités croissantes dans nos sociétés, car tout le monde n'a pas de l'actif immobilier, tout le monde n'a pas de l'actif boursier et obligataire. Donc, c'est un premier inconvénient, accroissement des inégalités et richesse fictive. Richesse fictive, parce qu'encore une fois, l'immobilier, la bourse et les marchés financiers créent actuellement une richesse fictive liée à cette boursouflure, dilatation monétaire. Et donc, pour conclure, je dirais que nous sommes dans une bulle.
Alors oui, voilà, j'avais bien compris qu'il s'agissait d'une bulle. Alors, la caractéristique de la bulle, c'est qu'à un moment ou un autre, elle finit par éclater. Et que se passe-t-il ?
Oui, alors il y a deux scénarios. Soit elle éclate brutalement et ça s'appelle une crise financière, et ça peut être très douloureux, ou bien nous la dégonflons gentiment. Alors les économistes emploient des expressions que je trouve imagées, soft landing, atterrissage en douceur, ou hard landing. Quand vous observez la situation dans laquelle nous sommes, il y a un article du Monde que vous m'avez envoyé parce que vous l'avez eu avant moi en raison de votre abonnement, alors que moi je vais chez le buraliste, et il est très intéressant parce qu'il montre qu'aujourd'hui, les défaillances d'entreprises sont à un niveau anormalement faible, puisque alors que nous sommes en dépression, nous avons 40% de défaillances d'entreprises de moins que nous n'en avions en 2019 et en 2018. Et de l'autre côté, nous avons trois fois plus de plans sociaux et trois fois plus de licenciements. Mais alors, cherchez l'erreur.
Pardon, Maxime, de vous couper, oui. Mais on a moins de défaillances dans une période où on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait, compte tenu que l'économie est ralentie, est-ce qu'il y en a moins uniquement parce qu'il y a eu jusque-là un soutien de l'État qui a mis beaucoup d'argent sur la table, mais on sait que ça va s'arrêter, on sait que l'argent qui a été mis va devoir être plus ou moins remboursé. Donc, est-ce que le début, les six premiers mois de l'année 2021, est-ce qu'on ne va pas assister à un écroulement de ce système économique, à des dépôts de bilan en chaîne de beaucoup de PME ou voire d'entreprises plus importantes?
Alors, c'est ce que prévoit l'assureur crédit SFAC Euler qui nous dit Les défaillances d'entreprises vont doubler en 2021 et 2022. Donc, c'est d'aujourd'hui à 2022, fin 2022, ça va doubler. Et cette année, 2021, ça va augmenter d'environ 30%. Et c'est bien là. Alors, pourquoi vous posez la question, mais je pense que vous avez trouvé la réponse, c'est que le soutien de l'État qui a été constamment reporté, hein, puisqu'on a reporté les échéances des prêts garantis par l'État, on a reporté les échéances du chômage partiel, crée un effet d'aubaine, je dis bien un effet d'aubaine, je ne parle pas de nos braves restaurateurs qui doivent être soutenus, je parle d'entreprises qui seraient disparues, c'est, vous savez, le déversement de la destruction créatrice chère à Schumpeter. Elles n'ont pas disparu parce qu'elles ont bénéficié, par effet d'aubaine, du soutien de l'État. Et ça, ça s'appelle une bulle d'entreprise zombie. C'est-à-dire, on a créé à la fois une bulle monétaire, une bulle financière, nous l'avons dit, mais aussi une bulle d'entreprise zombie. Et effectivement, où cette bulle se dégonfle harmonieusement, alors quel serait un dégonflement harmonieux? Eh bien, ce serait que le supplément d'épargne, la Banque de France nous dit que cette année, nous avons 130 milliards d'épargne supplémentaire, puisse remplacer progressivement l'aide de l'État pour renforcer les fonds propres des entreprises, qui sont très faibles en France, anormalement faibles. Ça, c'est un scénario vertueux, c'est celui qui est recommandé d'ailleurs par le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. L'autre scénario, c'est qu'avec 1 400 milliards de créances douteuses dans le système bancaire européen, à un moment qui pourrait être en 2021-2022, la bulle éclate et provoque une crise financière dont l'intensité est pour le moment imprévisible.
Oui, alors tout à l'heure vous parliez de ces dettes qui sont, finalement on a inventé, qui se renouvellent en permanence, on a inventé le mouvement perpétuel, là, si je comprends bien, parce que…
Oui, mais ce n'est pas nouveau, c'est pas nouveau. La France, depuis le départ de l'Élysée de M. Giscard d'Estaing, la France est en déficit permanent, donc nous avons constamment accumulé de la dette, et nous remplaçons la dette par de la dette. Toute la question, c'est la question des taux d'intérêt.
Est-ce qu'on remplace la dette par de la dette ou est-ce que, si c'était qu'on on serait à montant constant, mais on a l'impression que cette dette s'accroît.
Donc, alors, elle s'accroît en termes relatifs par rapport au PIB, et il faut raisonner comme ça, par rapport à une grandeur se référant à l'économie réelle. Simplement, Artus signale, à juste titre, que comme nous avons finalement sur les 120% de PIB que nous allons avoir à la fin de l'année, vous avez cette dette Covid qui a été neutralisée et vous avez un tiers de la dette totale qui elle-même a été neutralisée puisque la BCE, la Banque de France, l'a rachetée. Donc, ce qu'Artus signale, c'est que la dette réelle qui est réellement exposée à une augmentation des taux d'intérêt n'a pas augmenté par rapport à 2008 de plus d'un tiers. Artus parle de 90%, alors que le chiffre réel est 120%, parce qu'il tient compte de cette neutralisation dans les comptes de la Banque centrale. Ce qui me permet de dénoncer au passage la démagogie, le populisme de ceux qui disent qu'il faut annuler la dette. Elle est déjà en partie neutralisée. Et dire qu'il faut annuler la dette, c'est appelé à violer les traités européens, ce qui serait la pire erreur qu'on pourrait faire, parce que ça porterait atteinte à l'euro et à la crédibilité de l'euro et à l'unité de la zone euro. Donc, elle est déjà en partie neutralisée. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Elle est neutralisée à hauteur d'un tiers. Voilà.
Est-ce que pour rembourser ces dettes, il faut gagner des sous? On va faire prendre les choses de façon très basique. Et pour gagner des sous, il faut faire de la croissance. Or, on sait aujourd'hui que la croissance, il y a quasiment longtemps qu'il n'y en a plus ou presque plus, que dans l'avenir, il y en aura de moins en moins, que la raréfaction de l'énergie, le pétrole, nous avons fait une émission là-dessus, on sait que ce n'est pas pour forcément tout de suite, mais ça viendra, que la lutte contre le réchauffement climatique viendra aussi se mettre un peu en travers d'une croissance débridée. Donc, il n'y aura plus de croissance. Alors, comment on rembourse une dette qui s'accroît alors qu'on n'a plus de moyens financiers, que l'on n'a plus cette fameuse croissance? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va falloir vivre plus chichement, plus durement pour certains, sachant que quand il y a crise, les gros maigrissent et les maigres meurent?
Alors, c'est une excellente question.
Merci.
Qui est politiquement incorrecte, et je vous remercie de l'avoir posée, parce que je crois qu'actuellement, nous vivons dans le mensonge. Lorsqu'on nous dit que nous serons sauvés par la croissance, vous savez comme moi que la croissance est corrélée avec l'énergie, et vous savez comme moi que 80% de l'énergie, c'est du carbone qui nous tue. Donc, si les engagements qui ont été pris le 10 décembre par 126 pays de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique sont tenus, je ne sais pas s'ils seront tenus, mais s'ils sont tenus, ben vous savez comme moi qu'il faut diminuer de 5% par an, c'est-à-dire à peu près de l'équivalent de la diminution de cette année, les émissions de gaz à effet de serre, et en l'état actuel de l'énergie, c'est-à-dire une énergie carbonée, c'est incompatible avec la croissance. Donc, je vous remercie de souligner ça, parce que dans les médias, vous entendez la croissance, non, ce n'est pas réellement la solution. La solution passe par la réduction des inégalités, parce que si nous n'avons plus de croissance, il faudra bien réduire les inégalités, et je souligne qu'à l'heure où nous parlons, les 120 principaux patrons français ont des rémunérations de 5 millions d'euros par an, ce qui est totalement, d'ailleurs ce n'est pas propre à la France, mais c'est totalement anormal. Et donc la réponse à votre question, c'est un, l'inflation, et l'inflation n'est pas visible pour le moment au niveau de la baguette de pain, mais nous avons parlé de l'inflation des actifs. Et si l'inflation des actifs arrivait à l'indice des prix, eh bien, il y aurait une érosion. Il y a déjà d'ailleurs une érosion à partir du moment où le rapport entre la dette et le prix de l'immobilier n'est plus le même. Il y a une érosion de la valeur de la dette. Et la vraie réponse alors à votre question, c'est les prélèvements obligatoires. C'est l'augmentation des prélèvements, et j'adhère à votre conclusion qui est de dire que notre niveau de vie a vocation à se réduire. Alors, moi je lance un appel, et j'espère que le journal Les Échos va le publier, avec mon ami Jean-François Verdier de la Toulouse Business School. Les nouveaux prélèvements, il faut les situer à l'échelon européen, et non pas à l'échelon national, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permettra de protéger la compétitivité nationale ou les compétitivités nationales, et deuxièmement parce que c'est le moyen de renforcer l'unité européenne et d'envoyer des signaux de prélèvements de type nouveau. Et je pense à la taxe carbone, je pense à la taxe carbone aux frontières, je pense à une taxe éventuellement sur la grosse épargne et sur les transactions financières. Et je pense aussi à l'écrêtement des grosses rémunérations. Donc la réponse à votre question est là, ce sont les prélèvements qui s'accroîtront inévitablement après 2022. S'ils s'accroissent de manière désordonnée dans les différents pays, nous risquons la catastrophe, c'est-à-dire nous risquons une divergence de la zone euro. Si Madame von der Leyen et Michel Barnier continuent l'œuvre qu'ils ont engagée ces derniers mois avec les chefs d'État, alors nous pouvons aller vers une fédération européenne, des prélèvements de type nouveau et un dégonflement harmonieux de la bulle. Voilà ma réponse, elle était un peu longue, mais la question que vous avez posée est essentielle, et comme aujourd'hui personne n'y répond correctement, puisqu'on agite la croissance, bon, je crois qu'il fallait dire la vérité. Alors maintenant, Bruno Le Maire a raison, et il parle dans le désert malheureusement, de dire que la France doit reprendre ses réformes, et en particulier la réforme des retraites. Nous sommes quasiment le seul pays au monde où les retraites ne sont pas financées.
Alors nous allons revenir sur ce point, parce que j'avais deux questions à vous poser là-dessus. Mais avant, nouvelle pause musicale, alors celle-là c'est de mon choix, et comme c'est une émission très masculine, vous l'avez remarqué, deux hommes, un technicien homme, notre ami Yanis. Ben, je voulais donner la parole aux femmes à travers une chanson d'Anne Sylvestre qui nous a quittés il y a peu. Ça s'appelle Juste une femme. Vous verrez, c'est une chanson assez, assez rude, mais qui a le mérite de bien poser le problème. Écoutons Anne Sylvestre.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, main baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade. Petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermez les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Voilà, Anne Sylvestre, Juste une femme. Eh bien, c'est une chanson qu'il faut, dont il faut méditer certainement les paroles. Alors, revenons aux propos que nous avions interrompus pour écouter Anne. Vous nous parliez de prélèvements supplémentaires. Mais comment peut-il y avoir de nouveaux prélèvements alors que le gouvernement, le président de la République a dit très nettement, il n'y aura pas de nouveaux impôts. Comment ça va s'organiser, puisqu'il y en a 10, on ne prélève plus, et vous nous dites qu'il faut des nouveaux prélèvements.
Alors d'abord, les promesses rendent les enfants joyeux, c'est ce que disait ma grand-mère, ou on peut dire les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Bon, je pense d'ailleurs que le président Macron est sincère, il n'y aura pas de prélèvements nouveaux avant 2022, mais nous voyons bien que si la croissance devait rester faible, et nous savons, vous et moi, que nous aurons probablement à partir de 2023 ou même avant une crise pétrolière, il faudra bien pour servir la dette des prélèvements nouveaux. Donc mon point de vue, c'est de dire qu'il vaut mieux les positionner à l'échelle européenne qu'à l'échelle française. Parce qu'à l'échelle européenne, ça sera équidistant pour tous les pays. Donc nous ne prendrons pas le risque de détériorer la compétitivité de tel ou tel pays. Et nous pouvons alors faire un effort d'imagination, mais nos dirigeants semblent en manquer beaucoup, et même nos économistes, et surtout peut-être nos économistes, pour imaginer des prélèvements d'un type nouveau. Et pour moi, vous connaissez mes convictions, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des inégalités qui sont absolument indissociables. Donc c'est dans ces deux directions qu'il faut aller. Et ben, je vous ai donné un certain nombre de pistes, je ne veux pas être trop long. Et je crois qu'en tout cas, vous posez bien le sujet. Mais il n'y a aucun débat là-dessus, Jacques, actuellement. Hein. Vraiment aucun.
Hein. C'est vrai qu'il n'y a aucun débat. C'est vrai aussi que s'il y a un nouveau prélèvement, sous quelque forme qu'il soit, sans une forte politique de réduction des inégalités sociales, exactement, nous allons de nouveau remettre des gens sur des ronds-points habillés en jaune ou d'autres manifestations de ce style, parce qu'on a vu que lorsque les gilets jaunes sont nés ou les bonnets rouges en Bretagne, c'est parce qu'il y avait nouveau prélèvement, mais sec, si je puis dire, sans qu'à côté, on les compense par quoi que ce soit au niveau de la réduction de ces inégalités.
Oui, j'adhère à cette analyse. Madame von der Leyen porte le projet d'une taxe carbone aux frontières. Alors, ça aurait quelles conséquences ? Bien, ça aurait comme conséquence de relocaliser, donc je m'en réjouis par avance, mais pour aller dans votre sens, ça aurait aussi pour conséquence que les produits chinois, et pas que chinois, qui soutiennent notre pouvoir d'achat, coûteraient plus cher qu'aujourd'hui. Donc, j'adhère à votre conclusion. Ça ne peut se faire qu'en réduisant les inégalités. Mais vous n'avez aucun débat aujourd'hui qui aille dans ce sens. Aucun, quasiment aucun. Moi, je suis très attentif. Artus est lumineux pour expliquer les mécanismes dans lesquels nous sommes, mais il n'y a pas d'économiste qui apporte une vision de l'avenir dans le sens que vous dites et qui est incontournable.
Bien, vous avez prononcé un mot qui, sur lequel il faudra que nous revenions, ce sont les retraites. L'heure est tellement avancée aujourd'hui qu'on ne peut pas se livrer à de grands développements. Il y avait une réforme prévue, le Covid l'a stoppée net. On entend de ci, de là qu'on va y revenir sur l'année 2021. Je ne sais pas si c'est le désir de M. Macron, parce que c'était quand même pour lui une réforme phare hein, dans son quinquennat, il aura certainement le désir d'y revenir. En aura-t-il la possibilité politique, économique? C'est un autre débat. Cela étant, il faudra quand même que l'on clôture cette réforme un jour ou l'autre, ou qu'elle s'arrête net.
Il n'y reviendra pas, parce qu'à mon avis, il aura trop peur d'y revenir. Il y a un homme qui a le mérite de prêcher dans le désert, c'est le ministre Bruno Le Maire, et vous avez vu le résultat. Le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale a dit non. Donc c'est pour ça que je dis que M. Macron n'y reviendra pas, puisque le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale a dit pas question de faire une réforme des retraites tant qu'on n'est pas sorti de la crise du Covid. Et donc, ça nous amène à 2022 et 2023. Voilà, donc,
Peut-être vous disiez pas question de faire une réforme tant qu'on n'est pas sorti de la crise du Covid, ou peut-être dans la tête de ces gens tant qu'on n'est pas réélu.
Oui, j'adhère complètement à votre remarque ironique. Ça nous ramène à la dette dans le sens où si la France n'adresse pas à ses créanciers, parce que les deux tiers des 2700 milliards, ce sont des créanciers privés et dont la moitié sont étrangers. Si elle n'adresse pas des signaux de remise en ordre de ses comptes, elle s'expose à une crise sur sa dette. Ça peut se produire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les créanciers ont confiance en nous, ils nous prêtent à taux négatif, demain, la situation peut changer. Regardez ce qui s'est passé en 2010-2011, pour la Grèce, pour le Portugal, pour l'Irlande, nous pouvons demain, dans un contexte complètement nouveau, après une crise financière éventuellement, nous trouver en difficulté. Donc, moi je salue, après avoir salué Michel Barnier, je salue Bruno Le Maire qui a le courage de dire des choses qui ne sont pas entendues.
Maxime, il est temps d'en venir à nos rubriques, nos dernières rubriques. Hein, une heure, c'est 60 minutes et ça passe très vite. Première rubrique, l'économie en Occitanie. Je crois que vous avez une enquête de conjoncture du mois de novembre.
Oui, alors elle est déjà ancienne et je vais être très bref puisque j'étais un peu long auparavant. Juste pour illustrer, Jacques, ce que nous savons, c'est que le deuxième confinement a eu infiniment moins d'impact que le premier. Les chiffres sont les suivants. Au mois d'avril, nous étions à 33% au-dessous du niveau d'activité de 2019. En septembre, avant le second confinement, nous étions à moins 4%. Donc, il ne nous restait plus que 4 marches de l'escalier à remonter. Et aujourd'hui, nous sommes à moins 8, c'est-à-dire que nous avons redescendu 4 marches de l'escalier. Mais vous voyez que de moins 4 à moins 8, ça fait moins 4, alors qu'en avril, on était à moins 33. Et donc, j'en conclus que le second confinement en Occitanie, comme dans le reste du pays, a eu 8 fois moins d'impact économique que le premier. Je dois dire d'ailleurs, pour être un peu ironique, que ça a été un confinement un peu en trompe-l'œil. Un peu en trompe-l'œil. Vous avez pu constater, comme moi, que la circulation automobile, le nombre de piétons dans les rues n'avait pas vraiment diminué. Et les résultats visés par le président de la République en matière sanitaire, je ne lui en fais pas le reproche d'ailleurs, hein, ne sont pas atteints, puisque il visait 5000 contaminations par jour et nous sommes en gros à 15 000.
Ce qui veut dire que nous allons tout droit vers un possible troisième reconfinement, surtout après des fêtes où bien les gens se sont lâchés, ce qui humainement peut se comprendre. Sur le plan de la raison, c'est autre chose. Nous risquons d'avoir un troisième confinement qui ne permettra peut-être pas à l'économie de redémarrer comme il le faudrait et qui ne permettra peut-être pas à certains secteurs, on va dire sociaux, la culture, la restauration et autres, de repartir comme ils le souhaiteraient ardemment.
Oui, c'est possible, mais rendons hommage aux Français quand même, parce que j'ai appris hier que le nombre de déplacements durant la période de Noël a été divisé par 2 par rapport à l'année dernière. Ce qui veut dire que les Français se sont censurés et ont joué le jeu des 6 personnes à table, au moins de 6 personnes à table. Les Français ont une attitude quand même très disciplinée. Et je pense que la Saint-Sylvestre n'aura pas lieu, en fait. Le ministre a d'ailleurs dit que la meilleure manière de célébrer le Nouvel An était de ne pas le célébrer. J'adhère à son exhortation. Je pense que les Français ont quand même gagné en discipline collective.
C'est un propos optimiste, mais que je partage aussi. Maxime, dernière rubrique, nos traditionnels conseils entre guillemets culturels. Puisque j'ai la parole, je la conserve. Donc, Patrick Artus, que nous avons longuement évoqué, vient de sortir un livre qui s'appelle « L'économie post-Covid » chez Fayard. Je ne l'ai pas lu. J'en ai lu des critiques qui me semblaient fort élogieuses. Je ne sais pas si vous l'avez lu peut-être, Maxime.
Non, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire à coup sûr, car Patrick Artus est l'économiste français le plus éclairant. C'est voilà, quelqu'un qui produit énormément de données et qui est très, très structurant.
Donc, Économie post-Covid chez Fayard de Patrick Artus, et puis dans un mode plus léger, quoique. Je ne suis pas un grand adepte des prix, mais le prix Goncourt de cette année me semble d'une excellente facture. Ça s'appelle L'Anomalie. C'est écrit par quelqu'un que j'aime bien, qui est un homme de culture et d'esprit, qui s'appelle Hervé Letellier, qui va vous plonger dans un monde un peu particulier sur lequel vous vous poserez peut-être beaucoup de questions et vous prendrez en tout état de cause beaucoup de plaisir à cette lecture. L'Anomalie, Hervé Letellier chez Gallimard, notre dernier prix Goncourt. Maxime.
Alors, comme officier des Palmes académiques, je suis un défenseur acharné de la langue française.
Elle en a besoin.
Et oui, et j'ai de la peine de la voir disparaître. Alors, je voudrais présenter les plus belles voix de la poésie francophone. C'est un livre que je vous ai prêté, d'ailleurs, d'Emmanuel Maury, qui est secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Et que je vous rendrai dès que nous nous reverrons, mais il est en bonne place dans ma bibliothèque.
Bon, alors Emmanuel Maury est mon frère, et il est préfacé par Éric Orsena et par Abou Diouf. Il est édité chez Michel de Maulle, et en fait, il présente des poètes francophones des 5 continents. Il y a des hommes d'État comme Senghor, il y a des prix Nobel comme Samuel Beckett, il y a des académiciens, Blaise Cendrasse, Aimé Césaire. Et je dirais, ce livre est un antidote à la disparition de notre langue, et peut-être notre langue sera-t-elle sauvée par ceux qui l'aiment en dehors de France. Car en France, moi je note comme vous, d'abord, l'éruption du franglais dans la bouche de gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais, l'appauvrissement du vocabulaire et la destruction de la syntaxe, et un français qui est de plus en plus syncopé, haché, notamment dans les médias audiovisuels. Voilà, donc hommage à la langue française, parce que vous me permettrez de citer Boileau, Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément.
Absolument. Merci, Maxime. Nous sommes au bout de notre heure, certainement légèrement dépassée, mais ce n'est pas grave. Nous souhaitons, bien sûr, au nom de tout l'esprit Occitanie, toute l'équipe de la radio, mais aussi en notre nom propre, Maxime, tous nos vœux pour l'année qui s'annonce. On en aura bien besoin, vœux de santé, vœux de sérénité, et puis on souhaite aussi à tous nos concitoyens de retrouver peut-être un peu d'ordre et de sens dans leur vie qui paraît, au vu de l'époque actuelle, en manquer beaucoup. Maxime, merci, à bientôt.
Merci à vous, Jacques, et à bientôt, j'espère, à Toulouse pour déjeuner
à Toulouse,
ensemble.
On peut espérer. Donc, voilà, Economica est terminée. C'était l'émission classique de Maxime Maury et de Jacques Lavergne avec au montage Yanis Boudin, que l'on remercie. Un podcast que vous pourrez bien sûr retrouver sur le site d'Esprit Occitanie ou sur l'application dédiée pour smartphone. Nous nous retrouverons en 2021 pour une nouvelle édition d'Esprit Economica. Belle journée, surtout belle dernière fête. Soyez prudents, prenez vos précautions. Belle fête quand même de fin d'année. À toutes et à tous. Au revoir.